au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Une dame vêtue de noir et dont le visage était caché par une voilette épaisse se leva quand nous entrâmes. « Bonjour, madame, » dit Holmes aimablement. « Je m'appelle Sherlock Holmes, et voici mon confrère et ami, le docteur Watson. » Sherlock Holmes s'était enfoncé dans son fauteuil. Il avait fermé les yeux. « Soyez bien précise dans les détails, » murmura-t-il.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. S'il nous est revenu souvent à ce micro de travailler à démontrer que tel ou tel écrivain trouvait une actualité propre à percer l'oubli qui tendait à l'entourer, rien de tel pour Conan Doyle. Car Sherlock Holmes, son héros, son enfant, sa créature, n'a pas cessé d'imposer depuis des décennies, et selon une actualité toujours renouvelée, sa puissante personnalité jusqu'à paraître, aujourd'hui comme hier, échappé à son créateur. En vain, celui-ci a-t-il tâché, un beau jour de 1893, de s'en débarrasser en le jetant dans les terribles chutes d'eau de Reichenbach, en Suisse. L'auteur a été contraint, sous la pression de millions de lecteurs désespérés, de le ressusciter. 275 films, au moins 275, ont mis en image le personnage de Sherlock Holmes. La bibliographie qui le concerne est vertigineuse, comportant une quantité de commentaires, de gloses, de pastiches, de transpositions, de parodies. Et depuis peu, le succès planétaire de deux séries de télévision concurrentes, l'une américaine, l'autre anglaise, a signifié hautement que cette postérité a intensifié encore ses dimensions et sa portée. Cette modernité, cette vitalité en vérité sans pareille, m'ont semblé devoir être éclairé dans un monde qui pourrait paraître tellement étranger au décor londonien des années victoriennes de la fin du XIXe siècle. Telle est donc l'enquête que nous allons conduire ce matin avec Nathalie Jaec, professeure à l'Université Michel de Montaigne de Bordeaux, dont les travaux brillants consacrés au prodigieux détective justifient pleinement que j'ai fait appel à sa science et à sa sagacité. À Nathalie Jaec et à Sherlock Holmes, bienvenue.
Je récapitulais mentalement tous les sujets sur lesquels il m'avait semblé bien informé. Je pris même un crayon pour les annoter. Quand j'eus achevé ma liste, je ne pus m'empêcher de rire. La voici. Sherlock Holmes. Ses connaissances. En littérature, nul. En philosophie, nul. En astronomie, nul. En politique, faible. En botanique, spécial. Est calé sur la belladone, l'opium, tous les poisons en général. Ne connaît rien au jardinage. En géologie, pratique mais restreinte. Distingue au premier coup d'œil les différentes espèces de terrain. Après s'être promené à pied dans Londres, m'a montré des éclaboussures sur son pantalon et d'après leur couleur et consistance, a déterminé dans quel quartier il les avait essuyées. En chimie, approfondie. En anatomie, exact mais sans système. En littérature à sensation, immense. Semble posséder tous les détails de chaque crime horrible commis au cours du siècle. Joue bien du violon. Est très adroit à la canne, à la boxe, à l'escrime. A une bonne connaissance pratique des lois anglaises.
Nathalie Jaec, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannet.
Nous avons entendu le cher Watson, le docteur Watson, l'indispensable compagnon de Sherlock Holmes, faire une liste de ses connaissances. C'est un extrait d'un documentaire d'Anouk Adelman sur France Culture, le 30 octobre 1981. Alors il est là, votre cher Sherlock Holmes, il est devant vous, devant nous.
C'est ça, voilà, il est là, c'est ainsi qu'il apparaît au docteur Watson lors de leur première rencontre. dans une étude en rouge, donc en 1886. Et face à ce grand mystère que constitue pour lui dès l'abord le détective, Watson essaie de faire la liste de connaissances qui lui ont l'air très étranges, très hétéroclites.
C'est un personnage qui est devenu en vérité universel, Sherlock Holmes. Aujourd'hui, on voit partout des Sherlockomania qui persiste, et entre-temps, entre hier et aujourd'hui, on a vu par exemple, on ne le sait pas toujours, que Franklin Roosevelt, le président des États-Unis pendant la guerre, était membre d'un club holmésien. Et que, nous dit-on, à Berlin en 1945, les Russes ont trouvé dans le bunker d'Hitler deux films avec Sherlock Holmes pour héros.
Tout à fait, c'est un personnage qui, depuis l'origine, a fasciné toute la population londonienne, toutes les figures, ou en tout cas beaucoup de figures historiques. C'est un personnage dont la faveur n'a jamais cessé depuis la toute première histoire en réalité. Et oui, une universalité absolue, il suffit d'un profil de Sherlock Holmes pour que de Chine en Australie, on reconnaisse immédiatement à quelques attributs typiques. Une casquette à rabat, une pipe, une loupe, le détective. Donc c'est un personnage à l'identité à la fois éminemment reconnaissable, instantanément, et pourtant à l'identité aussi très mystérieuse, très trouble.
Bernard Houdin, qui a proposé dans la jolie collection Découverte de Gallimard une enquête sur Sherlock Holmes il y a une vingtaine d'années, relevait dès ce moment-là que des statues avaient été élevées en Suisse et au Japon à Sherlock Holmes, des timbres avaient été émis à son effigie au Nicaragua, même par la République islamique des Comores.
Absolument, c'est un succès et une renommée planétaire qui se marque, comme vous l'avez dit, dans divers hommages, dans des objets du quotidien, dans des traductions, dans plusieurs dizaines de langues des œuvres de Conan Doyle. Donc oui, c'est un personnage absolument universel et dont les parodies se vendent dans le monde entier.
C'est un cas où on a le sentiment qu'il est né une sorte d'amour-haine entre le créateur et sa créature, entre Conan Doyle et Sherlock Holmes. Il est frappant qu'au bout d'un moment, il ne l'ait plus supporté et qu'il était obligé, comme je le disais, de le ressusciter à son grand âme.
Tout à fait. Alors l'histoire de la relation entre Conan Doyle et sa créature est absolument passionnante et rocambolesque, effectivement. Conan Doyle avait pour... Donc, on sait qu'il était médecin, qu'il était ophtalmologue, et puis il a commencé à écrire, à la fin des années 1880, une histoire qui avait pour lui un petit peu un statut de distraction, et qui finalement a pris toute la place dans son travail littéraire. Conan Doyle, lui, ce qui l'intéressait, c'était l'histoire. Il voulait écrire des romans historiques en priorité.
Il l'a fait d'ailleurs une fois qu'il s'est provisoirement débarrassé de Sherlock Holmes.
Absolument.
En faisant tomber effectivement en Suisse dans ses chutes.
À ce moment-là, il a pu écrire La Compagnie Blanche et puis Sir Nigel, la suite, qui ont eu des succès d'estime du public, mais qui n'ont jamais remplacé dans le cœur des lecteurs Sherlock Holmes.
Le Brigadier Gérard aussi, qui nous concerne, nous les autres Français.
Absolument, le Brigadier Gérard.
À l'époque de la Napoléon.
C'est ça, à l'époque de Napoléon, les histoires du brigadier Gérard sont un autre essai pour Conan Doyle de revenir à ses premières amours, à la fiction historique. Mais effectivement, il n'a jamais pu se débarrasser du détective. Il a fait un premier essai. En 1893, il écrit Le problème final, qui a pour objectif de se débarrasser définitivement de ce détective décidément devenu un peu trop encombrant.
Problème final, le nom l'indique bien.
C'est ça, en tout cas Conan Doyle l'espérait. En réalité, le public aura raison de cette finalité. Mais il invente pour l'occasion le professeur Moriarty, qu'il sort un petit peu de son chapeau et dont il fait l'ennemi juré de Sherlock Holmes, en inventant cette figure maléfique d'un double préside en quelque sorte à la criminalité londonienne, et puis il les précipite tous les deux.
Enlacés l'un et l'autre.
Enlacés, du haut des chutes du Reichenbach, et Watson, le cœur gros, commence le problème final par une espèce d'hommage à son détective chéri, et donc mort dans ses chutes. En réalité, cette histoire va créer une sorte de tollé lui-même très très spectaculaire, lui-même devenu très mythique, puisque au fur et à mesure que les gens racontent ce tollé, il devient de plus en plus épique. Mais effectivement, à Londres, à Londres et dans le monde entier, les lecteurs ont protesté très très vivement, ont envoyé des lettres très virulentes à Conan Doyle, ont porté le deuil, ont porté des brassards en signe de deuil, et puis ont réclamé à corps et à cri, le retour du détective.
Il a commencé par raconter une histoire qu'il a posée comme antérieure à sa mort. C'était une sorte de demi-concession. Puis ensuite, il a été emporté par ce mouvement planétaire qui réclamait Sherlock Holmes.
Absolument. Mouvement planétaire et puis aussi pression financière des Anglais, des Américains qui lui offraient des ponts d'or pour qu'il fasse revivre le détective. Alors effectivement, il a d'abord fait une première concession en écrivant Le chien des Baskerville en 1901, qu'il situe avant le problème final. Et donc on sait tous à quel point Le chien des Baskerville est devenu ce texte très très attendu, très chéri des lecteurs, ce texte mythique qui incarne à son plus haut la fiction holmesienne.
Un des quatre romans, puisqu'il y a 56 nouvelles et quatre romans.
C'est ça, ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire l'ensemble des histoires de Conan Doyle, sont constitués de 56 nouvelles et 4 romans, c'est-à-dire finalement un corpus assez limité au regard des nombreuses parodies qui ensuite sont venues augmenter ou viennent augmenter régulièrement ces 60 textes originaux.
Je vais vous faire entendre la voix de Conan Doyle, Nathalie Jaec. Peut-être ne connaissez-vous pas cette archive, vous allez nous le dire. Il s'exprime en l'occurrence 3 ans avant sa mort. Il est mort en 1930 à 71 ans. 3 ans avant sa mort, il s'exprime de la sorte. Écoutez-le.
I used, as a student, to have an old professor. His name was Bell.
Quand j'étais étudiant, j'avais un vieux professeur qui s'appelait Bell et qui était très rapide en matière de déduction. Il regardait le patient sans même lui laisser le temps d'ouvrir la bouche et diagnostiquait la maladie et souvent aussi la nationalité, le métier du patient. Et tout ceci avec son sens de l'observation. Alors j'ai pensé que si un scientifique comme Bell devenait détective, j'avais là un nouveau genre de détective. Et j'ai commencé à écrire des histoires courtes dans le Strand Magazine. Et les gens ont reconnu que c'était différent des détectives à l'ancienne. Il y avait là quelque chose de nouveau. Ça a prospéré, et moi aussi. Et depuis, Sherlock Holmes a pris son chemin. Ce qui est curieux, c'est que beaucoup de gens dans le monde pensent qu'il est un être humain encore en vie. Je reçois du courrier pour lui. Et pour son stupide ami Watson. J'ai même eu des lettres de femmes âgées disant qu'elles seraient heureuses d'être la gouvernante de Holmes. L'une d'elles, quand elle a su qu'il s'occupait d'abeilles, a écrit qu'elle était une experte pour séparer la reine. Je ne vois pas ce qu'elle voulait dire, mais elle était bien sûr prédestinée à être la gouvernante de Sherlock Holmes.
Vous aviez l'air très contente en écoutant cette archive, Nathalie Jaec.
Oui, c'est très, très émouvant, en fait, d'écouter cette belle voix de Conan Doyle. Effectivement, une voix un peu vieillie, patinée par les ans, et puis de le voir évoquer 3 ans encore avant sa mort, cette créature qui, comme il le dit très bien, a fait son chemin, et plus de chemin encore que l'auteur ne l'aurait imaginé, sans doute souhaité.
Stupide Watson, c'est dur ?
C'est dur, c'est très dur. Alors évidemment, le personnage du docteur Watson est un personnage très captivant et très technique aussi sur le plan littéraire, parce qu'il est l'alter ego idéal, dont la fonction essentielle est de mettre en valeur, bien entendu, la sagacité, la brillance du détective.
Mais il existe quand même.
Il existe absolument. C'est un, contrairement à ce que l'on croit dans le texte, c'est un homme assez complet, disons. C'est un médecin, c'est un soldat. Il a combattu en Afghanistan. Quand Sherlock Holmes le rencontre, il revient de la campagne d'Afghanistan. C'est aussi un très bel homme. On l'imagine un petit peu comme un personnage un peu falot au regard de Sherlock Holmes, mais en réalité...
Il épouse une cliente de Sherlock Holmes.
Oui, dès la deuxième histoire, Le signe des quatre, il se marie avec Mary Morstan.
Il se partage entre les deux appartements.
C'est ça, il est le plus souvent en réalité avec Sherlock dans son appartement et déserte le domicile conjugal.
Colocataire
préféré. Donc oui, c'est un personnage qui existe, qui est toujours prêt à suivre Sherlock Holmes dans ses échappées nocturnes, qui manie comme lui et avec lui les armes, qui n'hésite pas à le suivre dans ses cambriolages. Et puis c'est surtout, bien entendu, le narrateur des histoires de Sherlock Holmes.
Personnalité assez plastique, on voit que dans les films ou dans les séries récentes, il a des figures assez différentes.
Oui, tout à fait. Le personnage de Watson est un véritable réservoir pour les scénaristes. Il peut être à la fois le faire-valoir zélé, le souffre-douleur préféré de Sherlock Holmes. C'est certainement l'un des intérêts majeurs et l'une des sources de comique de la toute récente série Sherlock, produite par la BBC, par Stephen Moffat et Mark Gatiss.
Avec Benedict Cumberbatch, c'est un étrange visage qui... C'est une série qui modernise nos héros jusqu'aux nouvelles technologies.
Absolument, c'est une série que les réalisateurs ont choisi de placer dans le Londres contemporain et qui met en scène tous les nouveaux outils technologiques dont se servent Sherlock et Watson d'une manière absolument pertinente en réalité.
Et Watson reste à la fois le biographe attitré et le souffre-douleur préféré.
C'est ça, cette fois dans la série Sherlock, il tient le blog officiel du détective, qui remplace évidemment les narrations qu'il publiait dans le Strand Magazine, à l'époque victorienne, et c'est à lui que revient la tâche monumentale d'édifier la statue du détective. En même temps, et c'est peut-être là l'un de ses aspects les plus attachants et les plus roués, en même temps que lui revient la tâche aussi de se dévaluer en permanence, de manière volontaire, pour mieux mettre en valeur l'exceptionnalité de son ami. Donc Watson, c'est un narrateur qui met en scène sa propre incompétence, à la fois sa propre incompétence de personnage, qui n'hésite jamais, ni dans ses narrations, ni sur son blog, à se ridiculiser, à insister sur la manière qu'a le détective de le rabrouer, de se moquer de lui. L'objectif étant évidemment de rendre sa narration à la fois très jubilatoire pour le lecteur qui éprouve à son égard un sentiment un petit peu de supériorité et de condescendance, et puis de glorifier son personnage principal.
C'est ce qui apparaît très bien dans Le Chien des Baskerville, le roman majeur que vous évoquiez tout à l'heure. Cet extrait concerne la fameuse histoire de la canne abandonnée, oubliée par un visiteur. C'est un extrait de l'émission Lecture vivante qui remonte à janvier 1994, c'était une production de Radio Bleu, une réalisation de Claude Chebel.
Ce matin-là, pendant qu'il était assis devant son petit déjeuner, je ramassais la canne que notre visiteur avait oubliée la veille au soir. C'était un beau morceau de bois, solide, terminé en pommeau. Juste au-dessous de ce pommeau, une bague d'argent qui n'avait pas moins de 2 centimètres de haut portait cette inscription datant de 1884 à James Mortimer, membre de la Faculté royale de médecine, ses amis du CCH. Une belle canne. Canne idéale pour un médecin à l'ancienne mode. Digne, rassurante.
Eh bien, Watson, que vous suggère cette canne?
Comment savez-vous que je l'examine? Vous devez avoir des yeux derrière la tête.
Non, mais j'ai en face de moi une cafetière en argent bien astiquée. Dites, Watson, que pensez-vous de la canne de notre visiteur? Nous avons eu la malchance de le manquer. Nous ignorons le but de sa démarche. Ce petit souvenir prend donc de l'importance. Alors, Watson, reconstituez l'homme d'après la canne. Je vous écoute.
Selon moi, ce docteur Mortimer est un médecin d'un certain âge, à mœurs patriarcales, aisé, apprécié, comme en témoigne le geste de ceux qui lui ont offert cette canne.
Bon, excellent.
Je pense qu'il y a de fortes chances pour que le docteur Mortimer soit un médecin de campagne qui visite à pied la plupart de ses malades.
Pourquoi, s'il vous plaît?
Parce que cette canne, qui à l'origine était très élégante, se trouve aujourd'hui dans un tel état que j'ai du mal à me la représenter entre les mains d'un médecin de ville. Le gros embout de fer est complètement usé. Il me paraît donc évident que son propriétaire est un grand marcheur.
Très juste.
Mais d'autre part, je lis ses amis du CCH. Je parierais qu'il s'agit d'une société locale de chasse dont il a soigné les membres et qui lui a offert un petit cadeau pour le remercier.
En vérité, Watson, vous vous surpassez. Je suis obligé de dire que dans tous les récits que vous avez bien voulu consacrer à mes modestes exploits, vous avez constamment sous-estimé vos propres capacités. Curieux, mais élémentaire. Voyez-vous, Watson, sur cette canne, je remarque un ou deux indices. Assez pour nous fournir le point de départ de plusieurs déductions.
Une petite chose m'aurait-elle échappé? J'espère n'avoir rien négligé d'important.
J'ai peur, mon cher Watson, que la plupart de vos conclusions ne soient erronées. Non pas que vous vous soyez trompé du tout au tout dans ce cas précis. Il s'agit certainement d'un médecin de campagne et d'un gros marcheur. Ah,
donc, j'avais raison.
Jusque-là, oui.
Mais il n'y a rien d'autre.
Si, mon cher Watson. Il y a autre chose, d'autres choses. J'inclinerais volontiers à penser, par exemple, qu'un cadeau fait à un médecin provient plutôt d'un hôpital que d'une société de chasse. Quand les initiales CC sont placées devant le H de hospital, les mots Charing Cross me viennent naturellement en tête.
C'est une hypothèse.
Je n'ai probablement pas tort. Si nous prenons cette hypothèse pour base, nous allons procéder à une reconstitution très différente de notre visiteur inconnu.
Il me semble, Nathalie Jaec, que ce texte illustre assez bien ce que vous nous disiez tout à l'heure sur les rapports entre Sherlock Holmes et le docteur Watson. J'observe aussi que le mot élémentaire intervient, mon cher Watson aussi, mais vous nous dites dans vos travaux que l'expression élémentaire, mon cher Watson, n'a jamais existé. Ça, c'est un choc.
Oui, tout à fait. C'est une citation apocryphe. Alors, il dit élémentaire. Il dit très régulièrement « mon cher Watson », mais ce sont les parodies ultérieures qui ont forgé, en quelque sorte, cette expression qui est devenue, par-delà Conan Doyle, l'un des marqueurs les plus typiques, les plus reconnaissables du détective. Donc le brouillage ici entre la réalité, l'histoire, la fiction, le texte, est effectivement absolu dans cette expression imaginaire et extrêmement réelle pour ce qui concerne le détective.
C'est une preuve du rayonnement universel du personnage que nous considérons ce matin, c'est-à-dire Sherlock Holmes. Cette manière de déduction reste dans les mémoires de façon tout à fait spécifique. Dans la même étude en rouge dont nous parlions tout à l'heure, je lis ceci après le départ de policiers qui ont pataugé, évidemment, ils n'ont rien compris. Holmes lance d'un ton désinvolte « L'assassin est un homme, il a plus d'un mètre 80, il est dans la force de l'âge. » Il porte des brodequins à talons carrés. Il est venu ici avec sa victime dans un fiacre tiré par un cheval qui avait trois vieux fers et un œuf à la patte antérieure droite. Son visage est haut en couleur et les ongles de sa main droite sont remarquablement longs. Fin de citation. Fin de citation topique.
Alors là, vous venez de citer évidemment l'un des morceaux de bravoure de Sherlock Holmes et chacune des histoires qui revient. C'est un petit peu le principe de la série qui revient sur certains passages obligés. Chacune de ces histoires contient l'un de ces morceaux de déduction dont Sherlock Holmes est gourmand, parce qu'évidemment c'est pour lui l'occasion de mystifier absolument son auditoire et Watson au premier chef. D'ailleurs, lors de la première histoire, les tout premiers mots que prononce Sherlock Holmes quand il aperçoit Watson, c'est « Vous revenez d'Afghanistan à ce que je vois ». Simplement en le regardant, et évidemment ça lance la longue série des étonnements délicieux de Watson, qui ne comprendra jamais comment s'y prend Sherlock Holmes. C'est l'extrait que vous venez de montrer, évidemment, à peu près tout ce que dit Watson, déduction pour lesquelles il est félicité par Sherlock Holmes, sera finalement erronée, et Sherlock Holmes reprendra point à point chacune des déductions dont pourtant Watson est très très fier. Pour le plaisir, bien sûr, des lecteurs.
Il faut que nous évoquions le décor urbain dans lequel les aventures de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, se déroulent. Ce Londres victorien, avec toutes les mythologies du brouillard, de Jack l'Éventreur, avec beaucoup de violence et en même temps beaucoup de dignité guindée chez les uns et chez les autres. Au centre de Londres, où figure le fameux appartement du 221B, Baker Street, qui est aujourd'hui, bien sûr, un musée, un lieu de pèlerinage quasiment pour tous les fidèles de Sherlock Holmes.
Tout à fait. Le Londres victorien est l'un des attraits sans doute majeurs des histoires de Conan Doyle. Et la série Sherlock reproduit très très bien cet intérêt en se rendant compte que Londres est l'un des personnages majeurs des histoires de Sherlock Holmes. Le Londres victorien est particulièrement intéressant pour effectivement cette dualité que vous mentionnez, à la fois la première ville du monde, moderne, avec des trains, une ville qui est toute empreinte des progrès scientifiques dont l'Angleterre peut se glorifier, et puis une face beaucoup plus sombre. Dans l'histoire L'homme à la lèvre tordue, Watson tombe par hasard sur Sherlock Holmes dans une fumerie d'opium. Les nombreuses ellipses du récit supposent que Sherlock Holmes déambule de nuit dans des endroits beaucoup moins recommandables. Donc c'est effectivement une ville qui inscrit dans sa topographie, dans les lieux que Conan Doyle décide de dépeindre, la dualité essentielle de cette époque.
Est-ce qu'on pourrait dire que Londres est une métaphore de la figure de Sherlock Holmes, ou bien le contraire? Je veux dire qu'il est voué à élucider les mystères et en même temps à perpétuer une figure mystérieuse. Il est à la fois assez efficace et assez trouble pour nous plaire.
Tout à fait. L'une des histoires centrales du corpus s'appelle « Une affaire d'identité ». Et très clairement, c'est ce texte de Doyle qui met en scène une identité double, une identité très troublée.
Et c'est d'ailleurs le sous-titre de votre livre, Les aventures de Sherlock Holmes, une affaire d'identité, Nathalie Jaec, ambivalence.
Ah, ambivalence absolue du détective.
Mystère et clarté.
Mystère et clarté, ombre et lumière, raison et...
Raison et folie, raison et déraison. Vous diriez ça? Non, vous avez l'air... hésitante, c'est rare chez vous.
Alors c'est pas tellement, ça n'est pas tant raison et déraison que sans doute un versant très rationaliste, très logique, tout à fait dans la lignée scientiste du positivisme du 19e siècle, et puis pas tant la déraison que davantage une sorte de lâcher prise, un dilettantisme très fin de siècle.
D'ailleurs, il est notable, on ne le sait pas toujours, que dans la dernière partie de sa vie, Conan Doyle a été un adepte du spiritisme. Il a été président d'honneur de la Fédération Spirit Internationale, persuadé que la vie existait au-delà de la mort biologique.
Oui, le personnage de Conan Doyle est un personnage, lui aussi, très complexe, très multiple. Une sorte, peut-être on pourrait dire, d'honnête homme dans la tradition du XVIIe siècle. C'est un médecin, un homme de science, c'est un écrivain, mais c'est aussi un homme de la cité. Impliqué dans toutes les affaires de son temps.
Mais dans le mystère des tables tournantes.
Le mystère des tables tournantes aussi. À la fin, on n'imagine pas effectivement que le créateur de Sherlock Holmes, qui a imaginé cette créature rationnelle, logique, ait pu être aussi intéressé, effectivement notamment à la fin de sa vie et sans doute à la suite de la mort de son fils.
D'une réponse à son chagrin.
Oui, un petit peu en réponse à son chagrin. La fin de sa vie a été marquée par divers décès de personnes qui lui étaient proches, son fils lors de la Première Guerre mondiale, et sans doute le spiritisme a été la manière ou une manière de se réfugier, une sorte de refuge, mais un refuge qu'il a occupé beaucoup. Il a effectivement organisé diverses séances de spiritisme, il a été jusqu'à écrire une sorte de défense de l'existence des fées, quelque chose qu'on imagine... Oui, des fées, des photos qui faisaient assez polémique avaient été prises à Londres de fées. Évidemment, c'était une sorte de canular. Mais Conan Doyle a usé de toute son influence auprès du public victorien pour avérer cette existence des fées. Donc c'est un élément assez troublant dans cette personnalité très multiple qu'il était.
Cela rejoint peut-être le fait que Conan Doyle fait de son héros, de Sherlock Holmes, quelqu'un qui a l'addiction aux drogues, plusieurs drogues, et qui se pique régulièrement sous l'œil indigné de son ami Watson.
Sherlock Holmes prit la bouteille au coin de la cheminée, puis sortit la seringue hypodermique de son étui de cuir. Ses longs doigts pâles et nerveux préparèrent l'aiguille avant de relever la manche gauche de sa chemise. Un instant, son regard pensif s'arrêta sur le réseau veineux de l'avant-bras, criblé d'innombrables traces de piqûres. Puis, il y enfonça l'aiguille avec précision, injecta le liquide et se cala dans le fauteuil de velours en poussant un long soupir de satisfaction. Depuis plusieurs mois, j'assistais à cette séance qui se renouvelait trois fois par jour. Mais je ne m'y habituais toujours pas. Au contraire, ce spectacle m'irritait chaque jour davantage. Et la nuit, ma conscience me reprochait de n'avoir pas eu le courage de protester. Combien de fois ne m'étais-je pas juré de délivrer mon âme et de dire ce que j'avais à dire ? Mais l'attitude nonchalante et réservée de mon compagnon faisait de lui le dernier homme avec lequel on pût se permettre une certaine indiscrétion. Je connaissais ses dons exceptionnels et ses qualités peu communes qui m'en imposaient. À le contrarier, je me serais senti timide et maladroit. Pourtant, cet après-midi-là, je ne pus me contenir. Était-ce la bouteille de Beaune que nous avions bu à déjeuner? Était-ce sa manière provocante qui accentuait mon exaspération? En tout cas, il me fallut parler. Aujourd'hui, morphine ou cocaïne?
Cocaïne. Une solution à 7%. Vous plairait-il de l'essayer?
Non, certainement pas. Je ne suis pas encore remis de la campagne d'Afghanistan. Je ne veux pas me permettre de dilapider mes forces.
Peut-être avez-vous raison, Watson. Peut-être cette drogue a-t-elle une influence néfaste sur mon corps. Mais je la trouve si stimulante pour la clarification de mon esprit que les effets secondaires me paraissent d'une importance négligeable.
Votre cerveau peut en effet connaître une acuité extraordinaire. Mais à quel prix? C'est un processus pathologique et morbide qui provoque un renouvellement accéléré des tissus, qui peut donc entraîner un affaiblissement permanent. Vous connaissez aussi la noire dépression qui s'ensuit. Pourquoi risquer de perdre, pour un simple plaisir passager, les grands dons qui sont en vous? Souvenez-vous que ce n'est pas seulement l'ami qui parle en ce moment, mais le médecin, en partie responsable de votre santé.
Mon esprit refuse la stagnation. Donnez-moi des problèmes, du travail. Donnez-moi le cryptogramme le plus abstrait ou l'analyse la plus complexe et me voilà dans l'atmosphère qui me convient. Alors j'ai pu me passer de stimulants artificiels, mais je déteste trop la morne routine de l'existence. Il me faut une exaltation mentale. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi cette singulière profession. Ou plutôt, pourquoi je l'ai créée puisque je suis le seul au monde de mon espèce.
Le seul détective privé?
Le seul détective privé que l'on vienne consulter. En ce qui concerne la détection, la recherche, c'est moi la suprême cour d'appel. Lorsque Gregson ou Lestrade ou Athelney Jones donnent la langue au chat, ce qui devient une habitude chez eux, soit dit en passant, c'est moi qu'ils viennent trouver.
Quel commentaire feriez-vous? Exaltation mentale, singulière profession, la drogue?
Oui, l'activité de Sherlock Holmes est très intimement liée à l'addiction. Aussi bien l'addiction de ses lecteurs, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque nouvelle histoire appelle la dose suivante, et donc le système de publication de manière hebdomadaire ou mensuelle génère un manque, un désir de
comme l'histoire nos séries, suivante. Comme nos séries télévisées peut-être aujourd'hui?
Absolument, c'est exactement le...
Le rapprochement s'impose.
Oui, c'est tout à fait... On peut considérer que Conan Doyle est un précurseur de la série et que toutes ces séries, en particulier la série Sherlock, qui se compose d'épisodes indépendants, génèrent l'envie, le besoin de l'histoire suivante. C'est complètement ce qui préside à l'esthétique de ces séries-là. Et chaque nouvel épisode, donc, reprend les mêmes ingrédients, les ingrédients nécessaires pour le succès de la série. Donc, l'addiction est une sorte, presque un principe de composition des histoires de Sherlock Holmes, tant dans le texte de Conan Doyle que dans les reprises contemporaine. Et puis il est aussi, bien sûr, l'addiction est aussi absolument consubstantielle au personnage de Sherlock Holmes, puisque lui-même a absolument besoin, on peut exprimer ça en termes de besoin, du cas suivant. Absolument pas un besoin financier, puisqu'il est autonome de ce point de vue, mais simplement, il a besoin de l'adrénaline, de l'intérêt que génèrent ces cas.
Il déteste les périodes intermédiaires entre deux affaires.
Le vide entre deux cas, qui relève d'ailleurs d'une sorte d'ennui victorien, lui est absolument insupportable. Et c'est à ces moments-là, c'est dans les moments de creux, quand il n'a pas de nouveaux clients qui sonnent au 221 bis.
Le côté fin de siècle.
C'est ça, une sorte d'ennui fin de siècle, d'incapacité à vivre une sorte de quotidien qui lui semble alors morne, le pousse à avoir recours à ces drogues que Watson réprouve autant, comme on l'a vu dans cet extrait. Et effectivement, la drogue n'est pas... la drogue est une sorte de substitut, d'ersatz du cas. Il a recours à la drogue quand le cas manque, littéralement. Et cet extrait du Signe des Quatre, qui donc est le deuxième texte publié par Conan Doyle, établit dès le début cette structure du manque et de l'addiction qui est fondamentale dans les séries. On verra régulièrement Sherlock Holmes avoir recours à des drogues, ou à la cigarette, ou à la pipe, à l'opium, pour pallier le manque de cas.
Il y a deux sources auxquelles s'abreuve cette œuvre. D'une part, un certain esprit scientiste, du temps et d'autre part, on ne sait pas toujours, une grande curiosité chez Conan Doyle pour l'œuvre de Freud. J'aimerais que vous nous éclairiez sur ces deux points.
Absolument. Conan Doyle est tout à fait, en ce sens, un produit de son temps. Sherlock Holmes incarne la croyance que la connaissance que l'on a du monde l'emporte sur la variété de la réalité même. C'est-à-dire, Sherlock Holmes pense qu'il est possible de comprendre, de connaître, de circonscrire le monde. Cela est possible pour lui, pour une raison qu'il énonce de manière très très simple, à savoir, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La réalité se répète en permanence.
Cyclique.
Cyclique. Et il est persuadé donc que connaître le monde lui servira à le reconnaître. Pour lui, connaître, c'est toujours reconnaître. Autrement dit, il voit dans chaque nouveau cas une version légèrement déguisée d'une réalité qu'il a déjà vue, déjà connue. Si bien que l'une de ses activités principales est, on pourrait dire, de répertorier le réel, de classer le réel, de l'indexer.
Tout répertorier, identifier les hommes.
Tout à fait.
Certains ont dit que c'était une sorte de pré-Google.
Absolument, il y a chez lui une sorte de moteur de recherche comme ça, pré-Google, où il y a chez lui cette même intention de tout indexer, de tout classer, de tout connaître.
C'est une sorte de fantasme. D'ailleurs, Watson décrit ce fantasme de Holmes, selon lequel l'esprit humain serait capable de maîtriser la réalité tout entière. Il écrit, depuis plusieurs années, il avait adopté une méthode de classement pour collationner toutes ces informations concernant les gens et les choses, si bien qu'il était difficile de mentionner devant lui une personne ou un fait sans qu'il ne pût en fournir aussitôt un renseignement.
Absolument. On a vu dans la liste que Watson fait dans une étude en rouge des connaissances de Sherlock Holmes qu'il est absolument ignorant pour tout ce qui ne sert pas sa pratique. Par exemple, il ne sait pas que la Terre tourne autour du Soleil. En revanche, il est absolument au fait de toute l'actualité des faits divers du Londres victorien. Il connaît le réel. En tout cas, effectivement, comme vous le dites, il a le fantasme que ce réel peut entièrement se connaître, se classer, se répertorier.
C'est un des enseignements de son fameux maître, le professeur Bell, qu'il évoquait dans le propos de tout à l'heure, ce scientisme. Et il a inspiré d'ailleurs, très concrètement, un certain nombre de policiers, jusqu'en France. Je vais vous faire entendre une archive qui devrait vous intéresser, Nathalie Jaec. C'est un témoignage d'Edmond Locard, un personnage qui a été notoire en son temps, qui avait fondé le laboratoire de police scientifique de Lyon. Peu de temps avant sa mort, c'est un octogénaire, il s'exprime de la sorte dans les actualités de midi le 22 mai 1959. C'est à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Conan Doyle. Écoutez-le donc.
Pendant de nombreuses années, j'ai été en relation épistolaire avec lui et je viens d'entendre dire au micro que Sherlock Holmes n'avait rien inventé. C'est tout à fait inexact. Il y a dans les romans de Conan Doyle un certain nombre de techniques de recherche des traces qui sont parfaitement originales. Et d'ailleurs, il ne faut jamais oublier que le personnage a réellement existé, car Conan Doyle avait un frère dont il est question dans plusieurs de ses romans, et notamment dans The Greek Interpreter, l'interprète grec, où il raconte que son frère a fait des découvertes sensationnelles. C'est vrai, il ne l'a pas inventé. Et en outre, je tiens à dire qu'en ce qui me concerne, il y a un certain nombre de choses que j'ai empruntées à Sherlock Holmes, et par exemple l'analyse des cendres de cigares et de cigarettes, et surtout l'analyse des poussières sur les chaussures.
Je m'excuse de vous interrompre deux secondes pour dire que oui, c'est le professeur Locard de la Sûreté de Lyon qui parle, car nous avons oublié de le dire.
Excusez-moi, c'est moi qu'il faut...
Eh bien, professeur Locard, je tiens à vous dire que quelqu'un de Scotland Yard, très haut placé à Scotland Yard, m'a dit que cette méthode, justement, de détection grâce aux poussières prélevées sur les vêtements, est aussi vieille que l'Ancien Testament.
Oui, oui, c'est entendu. Je n'ai pas dit sur les vêtements, j'ai dit sur les chaussures. Et l'examen des poussières des chaussures, ça c'est une chose qui se trouve dans plusieurs des nouvelles de Conan Doyle et qui n'avait guère été pratiquée avant. Je n'aime pas bien que les policiers réels fussent ceux de Scotland Yard qui sont les premiers du monde, nous le savons, essaye de diminuer la gloire de ce romancier qui a été un très grand inventeur.
Gaëtan Sorazin, vous l'avez rencontré, vous, Conan
Doyle. Mais oui, alors j'ai été très heureux d'entendre la rectification de Lockhart. Parce que moi, je peux apporter une rectification directe, qui est de Conan Doyle lui-même, que j'ai interviewé à deux reprises à l'hôtel Regina, quand il est venu à Paris, et il n'avait pas du tout relié le personnage de Sherlock Holmes. Il lui restait tellement fidèle que je lui ai posé la question suivante. Dans l'ordre de vos personnages, quel est celui qui vous plaît encore le plus? Est-ce le colonel Gérard, dont il a raconté les aventures en deux volumes? Est-ce Sherlock Holmes? Et Conan Doyle m'a dit de la façon la plus précise, je reste entièrement fidèle au personnage de Sherlock Holmes et je tiens à ce que cette création soit, dans l'avenir, le reflet propre de mon ingéniosité. Ah. Et ensuite, comme le disait Lise et Lina il y a un instant, il m'a parlé, parce qu'il ne s'occupait plus que de cela, de questions d'ectoplasme, de questions de table tournante. Il avait été acquis à ses idées par la mort de son fils et il l'évoquait pour se consoler.
La journaliste qui intervient avec beaucoup d'autorité dans cette archive, c'est Lise et Lina qui a été connue en son temps et qui avait d'autant plus d'autorité qu'elle était la femme du directeur de la radio, Vladimir Porcher, ce qui permet de s'installer avec force dans une émission.
Très bien.
Nathalie Jaec, cet héritage du côté d'Edmond Lockhart, vous le trouvez frappant?
Oui, bien sûr. C'est un Sherlock Holmes a effectivement été un précurseur pour tout ce qui concerne la police scientifique. Lui-même rend hommage à Alphonse Bertillon dans l'histoire Le Traité Naval.
Donc, le fameux inventeur à la fin du 19e siècle, celui qui s'est beaucoup trompé dans l'affaire Dreyfus, mais qui d'autre part a inventé la police scientifique.
Tout à fait.
Les empreintes, utilisant les empreintes en particulier.
C'est ça, la police scientifique, l'anthropométrie. Tout un système de définition de l'identité. Il a inventé le portrait robot, il a inventé tout un système de classification et d'exploitation des traces. Et Sherlock Holmes, à son tour, a donné quelques idées à la police scientifique de l'époque, qui a emprunté certaines de ses techniques, en particulier, effectivement, l'analyse des graviers, l'analyse des terres. On voit que Sherlock Holmes, vous me parliez tout à l'heure de Google, on peut éventuellement même citer une sorte de Google Map. Il connaît Londres très très bien, il connaît la terre de Londres à la couleur, à la forme du gravier ou du sable. Il est capable de dire dans quel quartier de Londres tel ou tel s'est promené. Donc effectivement, la qualité scientifique de Sherlock Holmes a été tout à fait louée par la police officielle française et aussi par Scotland Yard.
Donc il serait légitime que le portrait de Sherlock Holmes figurât au Quai des Orfèvres, c'est ça que vous nous dites?
Absolument, absolument. Dans le cadre de la rénovation du Quai des Orfèvres, on pourrait admettre un portrait de Sherlock Holmes.
Le message sera transmis. Je parlais de Freud, d'autre part. Il est intéressant, simultanément, de constater que Conan Doyle prête attention à ce que Freud enseigne, au rayonnement de son œuvre.
Tout à fait. L'écriture par Conan Doyle des histoires de Sherlock Holmes est tout à fait contemporaine de l'invention par Freud de la psychanalyse, de la théorisation par Freud de la psychanalyse.
Parfois d'ailleurs, Sherlock Holmes donne l'impression qu'il est sur son divan quand arrivent ses clients ou ses clientes.
Absolument. La réception par Sherlock Holmes de ses clients est très très proche du protocole de la séance analytique, avec Sherlock Holmes qui joue le rôle d'un psychanalyste. Alors un psychanalyste est sans doute un peu abusif, parce que il détecte et interprète le moindre signe d'une manière très très autoritaire. En tout cas, le protocole effectivement de la réception des clients est semblable. Il a recours aux associations libres. Il porte une attention extrême aux détails. On sait que c'était l'une des caractéristiques de la méthode de Freud. Et puis, l'objectif de la psychanalyse, comme de la détection, est de parvenir à une narration rétrospective qui permet de reconstruire le passé en s'attachant à des détails négligés, oubliés par d'autres, à des sortes de rebuts que Sherlock Holmes fait signifier. Donc oui, le lien avec la psychanalyse est assez évident. Et d'ailleurs, Marc Gatiss et Stephen Moffat, dans la série Sherlock, ont exploité cette veine, cette parenté de la détection et de la psychanalyse, par exemple dans Le Chien des Baskerville, en créant le personnage du psychanalyste de Sir Henry. Et donc, il y a divers clins d'œil à la psychanalyse aussi dans les versions contemporaines.
Vous parliez du Chien des Baskerville, les relations entre Sherlock Holmes et l'animalité sont intéressantes. Il y a quelque chose délibérément brut, brutal dans son comportement quand il choisit en particulier le silence. Watson écrit de lui « Quand il était lancé sur une piste, Sherlock Holmes était transformé. Ceux qui n'ont vu de lui que le théoricien, le logicien tranquille de Baker Street, n'auraient jamais pu le reconnaître. Son visage tantôt s'enflammait, tantôt s'assombrissait. Son front se plissait de deux sillons durs et profonds, et en dessous, ses yeux brillaient avec l'éclat de l'acier. Il baissait la tête, ses épaules se courbaient, ses lèvres se pinçaient, et les veines de son cou puissant saillaient comme des cordes. Ses narines semblaient dilatées par cette passion purement animale qu'est la chasse. C'était un feu ininterrompu d'exclamations, de grognements, de sifflements et de petits cris d'encouragement et d'espoir. Les cris, les sifflements se substituent à la parole.
Tout à fait, c'est une citation très très intéressante qui illustre parfaitement la dualité du détective et transformation que Watson relate assez souvent, la manière dont le détective tout d'un coup est happé par une sorte de double animal.
Oiseau, faucon, serpent,
oiseau,
araignée.
Faucon, serpent, chien. Bien entendu, le chien, lui-même, le limier, qui renifle les pistes, littéralement, assez souvent, Sherlock Holmes se met à quatre pattes et va renifler la trace des criminels. C'est intéressant, bien sûr, parce que Sherlock Holmes est aussi là pour rassurer le monde. Il a une fonction de rassurance très importante, et le bas-monde criminel, à l'époque, est, de manière typique dans la littérature victorienne, décrit comme un monde animal, comme un monde grouillant, comme un monde de vermine. Et Sherlock Holmes est d'un côté celui qui attrape ces criminels animalisés, qui remet de l'ordre dans ce monde victorien dont on sait qu'il est menacé par une peur de la rétrogression, une peur de la rétrogression à l'animalité. La publication par Darwin en 1859 de L'Origine des espèces a instillé chez les victoriens une sorte de crainte de ce que les victorianistes appelaient la rétrogression. Et donc Sherlock Holmes a ici un petit peu une fonction de secours du monde, une fonction de rassurance.
Est-ce que ce serait forcer le trait que de dire que une des raisons et des motifs de la permanence du succès de Sherlock Holmes est qu'il peut encore aujourd'hui répondre à certaines de nos angoisses contemporaines ?
Oui, bien sûr, il y a dans Sherlock Holmes, sur le versant solaire, et on le voit bien dans les adaptations contemporaines, il y a sans doute prioritairement la satisfaction de voir, tout simplement, parce que c'est assez régressif en réalité, comme cet aspect de cette littérature est assez régressif, il y a la satisfaction de voir les méchants punis, de voir le bien triompher sur le mal de manière assez régulière. Donc ce versant assez conservateur, rassurant, de l'œuvre d'Hoylienne existe véritablement. Mais la citation que vous avez diffusée est intéressante parce que elle montre aussi que sous la surface de cette version rassurante, que sous la surface viennent aussi se loger des pulsions beaucoup plus inquiétantes, beaucoup plus animales, des dangers que Sherlock Holmes ne se contente pas de combattre, mais qu'il incarne aussi. C'est donc un texte beaucoup plus multiple, beaucoup plus ambivalent qu'on le croit parfois. La série Sherlock montre très bien de quelle manière le côté rassurant des histoires est en permanence sapé par une version contraire, une version dissidente qui menace et qui intéresse aussi, bien entendu, beaucoup.
Je voudrais que nous terminions cette conversation consacrée à l'actualité de Sherlock Holmes et de son père, c'est-à-dire Conan Doyle, en évoquant le rôle de celui-ci dans la politique internationale de son temps. Il s'est considéré comme un citoyen qui était aussi voué à jouer son rôle, à parler pour défendre, par exemple, des personnes qu'il considérait comme injustement condamnées ou pour appuyer le patriotisme britannique pendant la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait. Conan Doyle est un personnage historique très intéressant, très multiple. C'est un humaniste, c'est un citoyen, plutôt conservateur, mais très impliqué.
Il s'est présenté deux fois, mais il n'a jamais été élu comme député conservateur.
Absolument, il s'est présenté en effet deux fois au Parlement d'Écosse, sans succès. Il n'empêche que c'était un personnage quasi omniprésent sur la scène publique, impliqué absolument dans la vie publique, écrivant beaucoup d'articles, commentant les affaires publiques, impliqué aussi de manière plus active dans effectivement des combats pour rectifier certaines erreurs judiciaires. On se souvient en particulier de son rôle décisif dans l'affaire Ejali, où il a contribué à innocenter un jeune avoué indien qui avait été accusé à la fois de chantage et puis d'avoir égorgé du bétail, une sordide affaire dans laquelle Conan Doyle a pu, de manière très très active, contribuer à faire libérer Ejali. Donc cette intervention-là dans les affaires publiques est importante.
Dans les affaires irlandaises aussi, il a essayé de défendre Roger Casement, qui était un grand acteur de l'indépendance, de l'effort pour l'indépendance de l'Irlande, qui a finalement été fusillé.
Absolument.
Pendant la guerre.
Oui, il est intervenu pour l'indépendance de l'Irlande, aussi pour dénoncer les exactions au Congo, toujours avec Casement. Il avait aussi très envie de participer à la Première Guerre mondiale, mais il était touché en quelque sorte par les limites de l'âge et on ne l'a pas autorisé à combattre. Il n'empêche, il a malgré tout réussi à participer en écrivant une chronique quotidienne de la Première Guerre mondiale qu'il a ensuite publiée. Donc une sorte d'implication constante dans les affaires de son temps.
Modernité aussi dans sa défense des pays colonisés. Son intervention pour la réforme au Congo évoque les combats d'André Gide.
Absolument, c'est un homme qui s'est intéressé à l'impérialisme de près. Il a d'abord joué un rôle dans la guerre des Bourgs.
Au début du siècle,
c'est ça, dans la deuxième guerre des Bourgs, en prenant la défense, en quelque sorte, des Britanniques, qui étaient très malmenés sur la scène internationale et auxquels on reprochait leurs exactions en Afrique du Sud contre les Bourgs. Il a écrit à la fois un pamphlet et un livre, dont il est persuadé que c'est ce qui lui a valu d'être anobli par Édouard VII, puisqu'il est devenu à la fin de sa vie Sir Arthur Conan Doyle.
Alors que Sherlock Holmes avait refusé, lui.
Sherlock Holmes avait refusé la Légion d'honneur. Sherlock Holmes refusait absolument tous les honneurs. Certains l'ont décrit sans doute à juste raison comme une sorte de sociopathe qui n'était pas du tout intéressé par ces honneurs publics. Son créateur, en revanche, Conan Doyle, était un personnage préféré, un personnage chéri du public britannique et jusqu'à la fin de sa vie a été un acteur très important sur la scène publique. Il était aussi d'ailleurs un très grand sportif. C'est peut-être intéressant, on le sait moins, mais c'est un homme comme Watson, dans ce sens-là, très physique. Il était dans divers sports, il s'est illustré, au cricket évidemment, comme tout Britannique qui se respecte, mais au football, à la boxe. Il a fait beaucoup de voyages, c'est aussi un grand voyageur. Dès le début de ses études de médecine, il s'est engagé sur un baleinier. En tant que médecin volontaire, il a pratiqué la chasse à la baleine à la chaloupe, avec des méthodes traditionnelles. Donc vraiment, c'est un homme...
Médecin sans frontières.
Oui, c'est ça, un petit peu, une sorte de médecin sans frontières avant l'heure. Un homme, une personnalité à multiples facettes.
Il y a un dernier aspect chez lui qui est intéressant et peut-être actuel, c'est sa passion pour les services secrets, pour le renseignement, pour l'espionnage, longtemps avant les cyberattaques.
Absolument. Quelques histoires, dès un scandale en Bohème, l'une des premières histoires du corpus.
Une lettre perdue du maître chanteur, etc.
C'est ça, il met en scène des personnages publics, des aristocrates, des traités confidentiels volés, qui mêlent un petit peu la détection et le roman d'espionnage, effectivement, tout en étant bien, en prenant bien garde de ne pas mentionner le nom des personnages impliqués, à la fois pour entretenir le suspense, pour donner à ses lecteurs l'idée que Watson conserve dans ses malles des histoires encore plus intéressantes, encore plus croustillantes, et puis pour, évidemment, pour ne pas dévoiler de secrets d'État. Mais oui, le lien avec l'histoire et l'espionnage est très important. C'est peut-être son frère Mycroft qui l'incarne le mieux. Le public sait peut-être qu'il a un grand frère. Sherlock Holmes a un frère aîné, Mycroft.
Qui surgit tout à coup
dans l'interprète grec et qui est une sorte de version superlative de son frère, un homme dont on dit qu'il est encore plus intelligent, mais qu'il a le handicap en quelque sorte de ne pas vouloir sortir, de ne pas vouloir mettre à l'épreuve de la réalité ses théories, contrairement à Sherlock qui lui ne répugne pas de prendre un fiacre et d'aller sur le terrain. Ça n'est pas du tout le cas de Mycroft. Mais Mycroft est décrit par son frère comme le gouvernement britannique à lui tout seul, une sorte de haut fonctionnaire impliqué dans l'espionnage, dans les affaires d'État, une sorte de figure aveugle du gouvernement et qui résout les affaires d'État, souvent avec l'aide de son frère.
Conan Doyle aimait beaucoup la France et ses romans historiques sont plus favorables à notre pays, beaucoup plus que n'étaient par exemple les œuvres de Dickens avec The Tale of Two Cities, un conte de deux villes qui est une très violente attaque contre la Révolution française, les révolutionnaires. Lui, au contraire, est favorable. Il aimait la France, c'est une des raisons peut-être pour lesquelles la France l'a beaucoup aimé. Il n'en a pas voulu même à Arsène Lupin, ou plus exactement à Maurice Leblanc, d'avoir imaginé un combat entre son héros et Sherlock Holmes.
Absolument, les liens entre Conan Doyle et la France sont intéressants à mentionner. Parmi le peu de choses que l'on sait de Sherlock Holmes, et on sait très peu de choses en réalité de sa biographie, Sherlock Holmes a des origines françaises. Il raconte à Watson qu'il a des origines françaises par sa grand-mère, qui était la sœur du peintre Vernet, Joseph Vernet probablement, ça n'est pas précisé. En tout cas, cet attachement à la France est marqué par Sherlock Holmes.
Après vous avoir écouté pendant une heure Nathalie Jaeck, j'en viens à me demander si la pérennité de Sherlock Holmes ne s'explique pas autant par les manques que par les pleins, par ce qu'il ne nous dit pas et par conséquent ce qu'il nous laisse deviner, les creux qu'il nous laisse remplir librement comme lecteur.
Absolument. L'une des caractéristiques centrales du texte de Doyle, c'est peut-être toutes les ellipses, tous les trous que Conan Doyle aménage très probablement sciemment dans son texte et qui ont nourri les réécritures suivantes. Parce qu'en effet, chaque nouvelle parodie peut se saisir d'un moment que Watson n'a pas raconté, soit parce qu'il n'était pas là, soit parce que Sherlock Holmes lui a caché, et donc se saisir d'un petit fragment pour élaborer une nouvelle histoire. Et c'est donc dans cette possibilité que Conan Doyle aménage au cœur de son texte que les nouvelles possibilités d'écriture peuvent éclore.
Eh bien, mes chers auditeurs, à vos plumes, Nathalie Jaeck. Votre ouvrage consacré à Sherlock Holmes, sujet de cette émission, s'appelle « Les aventures de Sherlock Holmes, une affaire d'identité ». Paru aux presses universitaires de Bordeaux, c'est votre ville universitaire, en 2008. C'est pour ça que j'avais apporté, si je puis dire, introduit Charles Dickens dans notre conversation. Vous lui avez également consacré un livre, Dickens, l'écriture comme pouvoir, l'écriture comme résistance, paru chez Ofris en 2008. Hommage soit rendu aussi au livre de Jean-Pierre Nogrette, Détection sur Sherlock Holmes, paru au Visage Vert en 2015. Et enfin, j'ai rendu hommage au livre de Bernard Audin, Enquête sur Sherlock Holmes, dans la collection Découverte chez Gallimard, 1997, comme tous les ouvrages de cette collection, fort bien illustrés. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète encore sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez, bien sûr, écouter, réécouter et enregistrer cette émission, la conserver pour vous-même et vos descendants dans l'éternité. Samedi prochain, nous commencerons les rediffusions de l'été avec l'émission de Bruno Dumézil qui avait été donnée pour la première fois le 10 décembre 2016 et qui s'intitulait « Les barbares, deux points vraiment différents ?» point d'interrogation. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Guillaume Cotte, une émission réalisée par Anne Kobilac, avec à la prise de son Pascal Bodin, à la discothèque Nathalie Rouvillain et Hervé Evano pour les archives de l'INA. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.